Alors pour moi, je dirais que la modestie, c'est un peu toujours savoir qu'on peut faire mieux, se remettre en question et toujours replacer au centre de sa création la raison pour laquelle on crée. Par exemple, moi, je crée parce que je souhaite que la femme se sente la meilleure version d'elle-même dans les créations. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que je crée, je me focus énormément sur ça. Depuis que j'ai commencé l'école, je me pose toujours une question quand je crée, c'est comment déshabiller le corps avec le vêtement. Et du coup, j'essaye toujours de travailler dans la transparence, dans la féminité, toujours en essayant de mettre en avant le corps féminin.
Bonjour à tous et aujourd'hui je suis avec Alexia. Bonjour à toi Alexia.
Bonjour Diane.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de me recevoir.
Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases?
Alors, je m'appelle Alexia Hanoumian, j'ai 27 ans et je suis une styliste entrepreneur parisienne.
C'est parfait. Donc, je vais commencer avec la toute première question qui est liée au sujet principal du podcast, qui est la modestie. Ouais. Et quelle serait ta définition de la modestie dans la mode?
Alors, pour moi, je dirais que la modestie, c'est un peu toujours savoir qu'on peut faire mieux, se remettre en question et toujours replacer au centre de sa création la raison pour laquelle on crée. Par exemple, moi, je crée parce que je souhaite que la femme se sente la meilleure version d'elle-même dans les créations. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que je crée, je me focus énormément sur ça. Et je pense que c'est toujours, ouais, se remettre en question dans son travail.
Ah, c'est super beau.
Il y a Merci.
Beaucoup de manières de voir. En ce moment, je suis entrée, en fait, sur, comme tu as dit, la remise en question et questionner. Et c'est vraiment une qualité interne, en fait, qui permet aussi d'améliorer la qualité de son travail extérieur.
Ouais, exactement. Exactement. Je pense que de toute façon, on n'est jamais, en tant que créa, je pense qu'on n'est jamais réellement satisfait de ce qu'on a fait avec le premier jet. Et du coup, c'est toujours continuer à rechercher, faire des styling, faire des recherches iconographiques et tout pour arriver au truc qui nous semble le plus parfait, je pense.
Et est-ce que tu penses que la modestie pourrait être liée avec l'humilité?
Ah oui, complètement. Oui, je pense. Je pense que être humble aussi, et l'humilité, c'est aussi se remettre aux questions et ne pas considérer que ce qu'on fait est toujours parfait. Donc je pense que oui, ça collerait complètement.
C'est super beau, mais j'imagine que ça doit être dur un peu en tant que styliste parce que généralement on a envie de produire des vêtements qui sont parfaits entre guillemets, mais on peut pas arriver à la perfection.
Je pense que en fait à un instant T, on a l'impression d'arriver à la perfection, mais en fait à force de voir la pièce, on s'en lasse et du coup on veut toujours aller plus loin. Et c'est ça aussi la beauté de notre métier, c'est qu'on peut toujours aller plus loin en fait.
Et se renouveler à chaque collection, à chaque création.
Exactement, tout en gardant toujours la même âme. Moi, depuis que j'ai commencé l'école, je me pose toujours une question quand je crée, c'est comment déshabiller le corps avec le vêtement. Et du coup, j'essaye toujours de travailler dans la transparence, dans la féminité, toujours en essayant de mettre en avant le corps féminin. En fait.
Ouais, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Et maintenant, si on revient du coup sur tes études,
ouais.
Qu'est-ce que tu as étudié?
Alors, j'ai commencé par faire une prépa d'art aux ateliers de Sèvres, où là, c'était tous les arts appliqués. Ensuite, j'ai été à la chambre syndicale de la couture parisienne pendant 3 ans. J'ai fait mon bachelor là-bas. Et là, j'ai étudié le stylisme et le modélisme. Donc, ça m'a vraiment appris pour le coup la technique et comment faire un vêtement de A à Z. Et après, j'ai fait l'équivalent d'un master, mon graduate diploma à la St. Martin's à Londres pendant 1 an. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment appris ce qu'était la créativité et vraiment toujours sortir de sa zone de confort et aller au plus loin de ce qu'on est capable de faire.
Et tu dis que ça t'a appris ce qu'était la créativité. Donc, qu'est-ce que la créativité?
En tout cas, pour moi, c'est encore une fois toujours se remettre en question et essayer aussi vraiment de... Moi, c'est ce qu'on nous a beaucoup appris à la Sainte-Martine, c'était vraiment sortir de sa zone de confort. Arrêter de toujours faire ce qu'on sait faire en quelque sorte. Et pousser ce qu'on est capable de faire au plus loin possible, en fait.
Sortir du cadre, sortir des conventions.
Oui, exactement. Alors après, moi, j'ai toujours voulu faire quand même du vêtement. Donc, j'ai essayé de faire de l'excentrique en restant toujours quand même sur du vêtement. Mais la Sainte-Martine, ça m'a permis de tester de nouveaux matériaux, de tester de nouvelles façons de travailler qui étaient, c'était incroyable. Vraiment, c'est pour moi la meilleure école pour apprendre mon métier.
Et en termes d'ambiance, j'imagine qu'il y a des différences entre Paris et Londres.
Ah, complètement. C'est
C'est le jour et la nuit.
Ça a vraiment rien à voir du tout, en fait. Vraiment, à Paris, on était, à Paris, j'avais l'impression d'être encore une enfant, en fait, quand j'étais à l'école. C'est-à-dire que il fallait que je rende des rapports tout le temps, on avait les profs, le directeur derrière nous. Si on n'était pas là pour X raisons, c'est limite si on n'avait pas des mots sur nos carnets ou des choses comme ça, alors que j'étais censée quand même être en études supérieures. Alors que à la Sainte-Martin, c'était vraiment, on gérait notre propre temps, ce qui fait qu'on était beaucoup plus indépendants. On avait juste une fois par semaine, on devait avoir une ou deux fois par semaine, on voyait notre professeur pour lui montrer l'avancée de notre travail. Mais c'était pas du tout la même chose à la chambre syndicale, en tout cas pour moi. J'ai trouvé que certains profs ils nous mettaient plutôt dans des cases et essayaient de faire en sorte qu'on fasse un peu tous la même chose. Donc des trucs un peu marketing, des trucs vendables, des choses comme ça. Alors que vraiment, à la Sainte-Martin's, mon professeur, qu'il aime ou qu'il aime pas ce que je fasse, il essayait de me pousser juste au-delà de mes limites. Par exemple, potentiellement, le produit ne lui plaisait pas, il me poussait au-delà de mes limites. Je trouve qu'à Londres, c'est beaucoup plus personnel, alors qu'à Paris, c'était rentrer dans un moule et ce sera bien, quoi.
Ah, donc à Paris, c'est un peu plus conventionnel, on va dire.
Et
c'est
vraiment complètement.
T'as appris à développer et à faire parler ta créativité.
Ah ouais, ouais, complètement.
Et est-ce que pendant ces années d'études, t'as fait des stages ?
Ouais, j'ai fait entre ma deuxième et troisième année, j'ai fait un stage chez Chanel de 6 mois au produit fini, où là j'ai vraiment vu les aspects de la production d'une collection, du dessin à sa mise en boutique. Donc j'ai pu voir un peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une production. Et après entre ma troisième année et mon master, j'ai fait un stage de 6 mois chez Sonia Riquel comme assistante styliste. Où là vraiment j'ai pu tout voir la recherche iconographique, au sketch, aux toiles, au modèle fini, au show, aux photos aussi.
Et quels seraient les principaux enseignements que tu as pu tirer de ces années d'études et de stages ?
De mes années d'études, je pense que, aujourd'hui en tout cas, je me rends compte, et aussi en faisant mes études à Londres, je m'en suis rendu compte, l'avantage quand même d'avoir un background technique en tant que styliste et être capable réellement de A à Z de comprendre son vêtement, de savoir le réaliser et le dessiner, ça aide énormément pour le métier après. Après, dans mes stages, j'ai appris qu'en fait, on n'était jamais... une collection n'était jamais finie, quoi qu'il arrive, en fait. Parce qu'on pourra toujours rajouter des pièces au dernier moment et qu'il y a un moment, en fait, où il faut se décider et se dire, OK, là, maintenant, c'est bon, je m'arrête, je dois rendre la collection dans une semaine, donc c'est bon, là, maintenant, j'arrête de produire, j'arrête de dessiner et je me focus que sur ce que j'ai actuellement et j'essaye d'en tirer le meilleur.
Et c'est arrivé quand tu étais en stage, c'est-à-dire terminer la collection à la vraiment dernière minute ?
Ah ouais. Alors pour le coup, chez Chanel, je voyais pas trop cet aspect-là, mais chez Sonia Riquel, et comme en fait dans énormément de maisons, la semaine avant le défilé, c'est toujours la pire parce que il y a des pièces qui viennent pas forcément de l'atelier parisien, donc c'est des pièces qui viennent potentiellement d'Italie, et il faut finir à la main les derniers éléments, mais ça arrive partout, et pour le coup chez Sonia Riquel, ça arrivait très très rarement comparé à d'autres amis qui ont travaillé dans d'autres maisons, où là pour le coup, eux, c'était du 5h du matin tous les jours, quoi. Je pense que c'est aussi une question d'organisation, et je pense parfois aussi du respect de l'humain. Moi, j'ai eu de la chance d'être toujours dans des boîtes qui respectaient l'humain et je pense que c'est important, mais ce n'est pas forcément toujours le cas.
Et donc, du coup, c'est ton stage à Sonia Riquel qui a mis un point final à tes études ?
Non, ensuite, j'ai fait mon master à la Sainte-Martin.
Ah, d'accord. Et après ce master-là, tu es revenue en France ?
Je suis revenue en France et j'ai commencé à travailler en freelance pour une marque de sweat et t-shirt qui s'appelle Nat Paris. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Elena mai 2019. On s'est rencontrés en juin 2019 et elle m'a présenté son idée de The Etiquette et j'ai trouvé ça très intéressant et du coup, on a commencé à travailler ensemble et on a présenté notre première collection le 24 septembre.
Et est-ce que tu peux nous reparler un peu de ça? Donc, tu rencontres Elena déjà dans quel contexte?
On avait une amie commune. Et cette amie commune, en entendant parler Elena, lui a dit « Bah écoute, appelle Alexia, elle cherche du travail, donc ça pourrait l'intéresser. » Et on s'est rencontrés et elle, en fait, elle m'a présenté tout le projet. Et en fait, moi, au départ, j'avoue que j'étais pas trop pour le fait de créer une marque. Je trouve qu'il y en a beaucoup et je me disais que si on faisait, si je me lançais dans quelque chose comme ça, c'était parce que c'était quelque chose de nouveau qui n'existait pas et qui avait un sens. En fait. Et là, avec Elena, en fait, ça reprenait absolument tout ce que je voulais. C'était un nouveau business model qu'on connaissait pas. C'était éthique, c'était intéressant. Il y avait vraiment tout ce qui m'intéressait.
Et donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est The Etiquette, parce qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était?
Alors, The Etiquette, c'est un nouveau concept de marque éco-responsable avec système de membership de location de vêtements. Donc, en fait, en devenant membre The Etiquette, on loue entre 4 et 16 looks par an en fonction de sa membership. Et en plus, on a des avantages dans des hôtels, des restaurants, des spas, des clubs de yoga. En fait, on essaye vraiment de créer une communauté parisienne une communauté pour la femme parisienne au départ. Et on essaye d'avoir énormément d'avantages pour nos membres. Et en fait, on est éco-responsable parce qu'on ne récupère que les chutes de la couture. Donc, on ne produit aucun tissu. Et en plus, pour tout ce qui est nos broderies et nos fournitures sur nos pièces, on les récupère sur d'anciens saris indiens. Et on a directement une personne indienne qui travaille avec nous et qui nous source tous ces saris. Et en plus, on redonne une partie de notre chiffre d'affaires à une ONG en Inde. Et du coup, cette personne-là, qui s'appelle Rit, s'occupe aussi de bien gérer à ce que notre argent soit utilisé à bon escient. En l'occurrence, c'est pour la Pink Foundation qui s'occupe des petites filles en Inde.
C'est un super beau projet, mais j'imagine que ça doit pas être simple à mettre en place. Par exemple, quand avec Elena vous êtes dit go, quel était le day one, le premier jour, qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher du tissu, on est allé voir un peu plein de magasins plein de fabricants de tissus à Paris. On est allé les voir en leur présentant le projet et en leur disant qu'on voulait récupérer leur chute parce que avant les chutes étaient brûlées ou sinon il y avait énormément de personnes qui ne savaient pas quoi en faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont ri au nez en nous disant que non, on était folles, que les chutes ils pouvaient pas nous les donner, qu'on pouvait pas travailler avec eux. Et en fait, petit à petit, on a fini par se créer des partenariats, notamment avec Sophie Allette et Jean Braque pour la dentelle, Mayaken pour le tissage, Swarovski pour les cristaux, Le Lief pour des soirées d'ameublement, où en fait, finalement, ils ont accepté de nous faire confiance. Mais ça a été la première chose qu'on a fait. Et aussi, en fait, on s'est fourni à la Réserve des Arts, qui est une association qui, elle, récupère directement les chutes des maisons, en fait, et les revend.
Donc, avec toutes ces chutes de tissus issues des grandes maisons, vous avez pu commencer à créer votre première collection?
Exactement. J'avais déjà dessiné la collection. Et, mais bon, après, évidemment, j'avais dessiné sans avoir de tissu ni rien. Donc, forcément, on a changé évidemment quelques pièces, mais ouais, on a commencé par ça. On a commencé par avoir le tissu, et après surtout on a cherché une couturière qui pourrait nous aider à faire notre collection.
Et puis après, parce que The Etiquette, ça s'est lancé en 2019, c'est ça?
Ouais.
C'est tout nouveau.
Oui.
Donc vous avez fait une présentation. Comment vous avez présenté après? Comment vous avez trouvé vos premières clientes, par exemple? Vous avez fait un défilé uniquement sur les réseaux sociaux?
On a fait un premier défilé le 24 septembre au Serpent à Plumes, où en fait on n'a pas voulu faire en forme de défilé parce que déjà nous on présente que 25 pièces, étant donné que toutes les pièces sont uniques, on les refait en fonction des tailles de nos clientes. Donc on a présenté que 25 pièces et en fait on a plutôt essayé de faire quelque chose de scénarisé, un peu comme un show. Il y avait une sorte d'histoire. Et en fait, nos premières clientes, on les a eues via notre entourage, le bouche à oreille et énormément les réseaux sociaux.
Donc, ça a bien marché. Là, vous avez votre showroom que malheureusement, vous avez dû fermer.
Exactement. Ouais, on développe. On a toute la collection qu'on peut voir dans notre showroom. Et en plus, depuis mars dernier, on a lancé By The Etiquette, qui est pour le coup là toute notre collection retail, donc à la vente directement. Et c'est le même principe, du coup, ce sont que des pièces uniques. Et c'est fait avec les chutes de notre collection The Etiquette et aussi avec les pièces, les tissus qu'on n'utilise pas pour notre collection The Etiquette. Mmh. Et aussi, en fait, après une année au showroom, là, par exemple, on a vendu notre première collection. On a fait une vente privée de notre première collection. Et les pièces qui n'ont pas été achetées sont remises pour être utilisées pour By The Etiquette. En fait, on venait vraiment un zéro déchet. Et c'est totalement circulaire. On réutilise à chaque fois tout ce qu'on a.
Ah oui, donc vous êtes vraiment, vraiment dans l'upcycling.
Complètement.
Mmh. Ah ben c'est super beau. Et actuellement, t'es en binôme avec Elena.
Oui.
J'imagine que elle, c'est plus la partie business et toi, plus la partie, tu gères plus tout ce qui est lié au stylisme.
Oui, voilà. Après, on est toutes les deux directrices artistiques sur les collections. D'accord. Mais c'est moi qui dessine et qui m'occupe aussi de notre atelier avec nos couturières et nos stagiaires.
Et comme c'est tout jeune, The Etiquette, comment est-ce que vous voyez l'évolution, même si actuellement, avec la situation actuelle, c'est un peu dur d'avoir une visibilité claire, comment est-ce que vous voyez évoluer The Etiquette?
Bah, nous, on aimerait, mais c'est le but depuis le début, c'est en fait créer vraiment un membership club avec The Etiquette et créer différentes houses. Par exemple, une à Londres où il y a énormément de membership clubs déjà, une à New York, une potentiellement en Italie, et développer en fait l'art de vivre à la française The Etiquette.
Et donc ce serait faire voyager l'art de vivre à la française dans différentes métropoles mondiales, ou par exemple à Londres avoir l'art de vivre à l'anglaise.
Non, ce serait à chaque fois l'art de vivre à la française The Etiquette.
Ok, bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et pour terminer sur cette aventure entrepreneuriale, pardon, c'est juste le début, mais quels seraient les principaux enseignements, par exemple les principales erreurs que vous avez faites à ne pas faire, que tu pourrais mentionner?
Je ne sais pas si simplement en un an d'existence, tu peux donner des conseils, mais je dirais qu'évidemment, quand on monte une start-up, on a envie qu'elle fonctionne directement et du coup, on a tendance à changer d'idée tout le temps. Je sais que nous, c'est ce qui nous est arrivé au début. Et je pense que c'est important, la première année, en tout cas, de se focus sur son business plan pour pouvoir vraiment le tester. Après, le contexte actuel fait évidemment qu'on est obligé de se renouveler à peu près tous les trimestres.
Et je pense que c'est important. Nous, avec Elena, on a la chance d'être devenus amis aujourd'hui et d'avoir des tempéraments différents. Ce qui fait qu'on s'aide quand même beaucoup, je pense, mutuellement. Je pense que c'est important dans une start-up d'avoir deux personnes qui ont des backgrounds différents.
Comme ça, vous êtes complémentaires.
Exactement. Je pense que si on avait été deux stylistes, on n'aurait pas réussi à mener The Etiquette aujourd'hui.
Mmh. C'est intéressant, vous êtes bien trouvés, parce que c'est vrai que parfois, les binômes ne fonctionnent pas toujours bien, parfois. Mais pour vous, tout se passe bien.
Pour nous, tout se passe bien. Pour nous, c'est vrai, on a de la chance d'avoir un binôme qui fonctionne très bien.
Et j'espère que ça va durer.
Je vois pas de raison que ça change.
Bon, en tout cas, c'est super bien. Et si on passe à la dernière partie du podcast, qui est plus centrée sur tes inspirations, la première question serait: quels seraient les trois créateurs ou marques qui incarneraient ta vision de la modestie dans la mode?
Ma vision de la modestie dans la mode, je dirais Phoebe Philo pour son style très féminin qui allait à l'essentiel, toujours dans le vestiaire féminin, et dans un autre style aujourd'hui, Edith Slimane qui est chez Céline. J'avoue que je le décrirais pas forcément comme modeste, mais il a su réinventer un vestiaire féminin et masculin d'essentiel qui est absolument incroyable. Et je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma définition de la modestie, mais je pense qu'aussi la modestie, c'est un peu revenir aux sources du travail manuel, en tout cas du moins dans la mode, donc l'artisanat et ce genre de choses. Et du coup, je citerai Chanel, Karl Lagerfeld, qui sont mes plus grandes inspirations. Ils sont vraiment dans l'artisanat pour le coup, eux, et c'est eux qui font vivre l'artisanat français en ayant racheté énormément de nos artisans comme Le Sage ou Le Marié. Et du coup, je pense que ce serait eux que je citerais. Et même aujourd'hui, Virginie Viard, avec le travail qu'elle fait avec la maison Chanel actuellement. En réussissant toujours à se réinventer la cliente Chanel d'avant, c'était plus nos grands-mères, alors qu'aujourd'hui, la cliente Chanel, ça peut être la grand-mère, la mère et la fille. Ils s'adressent vraiment à tout le monde et ils se réinventent, même si le style reste le même, ils se réinventent, je trouve, de saison en saison. Toujours en faisant perdurer le style de Gabrielle Chanel, à la Karl Lagerfeld, on va dire.
Et cette élégance intemporelle, un peu.
Exactement. Oui, c'est ça. Je pense que la modestie aussi, c'est vraiment l'élégance de soi directement. Qu'importe la marque, on peut porter du Zara, on peut porter du H&M, même si c'est pas les choses que je préconise vu que c'est de la fast fashion, mais on peut être très élégante quand même sans forcément porter des Chanel ou des Céline ou des Dior.
Oui, en fait, tout est dans l'attitude.
Exactement. La marque ne définit pas l'élégance d'une personne, finalement.
C'est la personne qui la porte.
Exactement.
Lui rend honneur ou pas.
Oui, complètement.
C'est super bien pensé, en tout cas. Et si on passe maintenant aux artistes, quels seraient les trois artistes qui incarneraient ta vision de la modestie dans l'art?
Je dirais J.R. pour sa photo, en fait, où vraiment on voit, je trouve, l'authenticité du regard des personnes qui prend en photo. Je trouve ça très authentique, ce qu'il fait. Il n'y a pas de, je sais pas, on n'a pas l'impression que ce soit posé ou autre. J'aime beaucoup ça. Sinon, je dirais, après, je vais vendre ma famille, mais mon oncle Édouard de Pagis, qui est photographe, qui fait des photos de nus, qui pour moi représente vraiment ça, où c'est des nus avec simplement un voile, par exemple, sur le nu, où on perçoit, c'est comme un trompe-l'œil un peu, on perçoit petit à petit le corps humain, et ça, c'est... Ça, je trouve ça vraiment... Ça, je pense que c'est aussi une représentation de la modestie, d'avoir vraiment quelque chose d'épuré et de vrai en face de soi. En fait, c'est la même chose que pour J.R., finalement.
Et réussir aussi à partager des émotions avec des...
Exactement, avec des choses qui sont sur papier ou autre, et qu'on peut pas forcément toucher, mais réussir à faire ressentir quelque chose juste en regardant une photo, une peinture ou quelque chose comme ça, je trouve ça aussi impressionnant.
Et aussi simple soit-elle, parfois on n'a pas trop besoin d'avoir trop d'artifices, en fait, pour...
Exactement. Finalement, les artifices, c'est plus fait pour cacher que quoi que ce soit. En fait, c'est une œuvre d'art honnête qui nous fera ressentir quelque chose, je pense aussi.
C'est vrai. Et donc, je dis souvent cette phrase, mais on pourrait aussi résumer ça un peu à « less is more », en fait.
Exactement.
Et
c'est important de se concentrer là-dessus.
T'auras un autre artiste, peut-être, à nous citer?
Il y a aussi Chloé Weiss, qui est une artiste canadienne, qui fait... Enfin, moi, je la connais surtout pour ses peintures, qui fait des peintures très réalistes et honnêtes, critiquant souvent la société de consommation, que j'ai découverte en suivant la galerie Alminrec sur Instagram.
D'ailleurs, tu pourras aussi me passer les liens, si ton oncle a un site,
évidemment.
Si tu es intéressé pour voir son travail. Et si on parle plus d'exposition, est-ce qu'il y aurait une exposition art ou mode, qui t'aurait marqué et pourquoi ?
J'ai une expo qui m'a énormément marquée, qui était l'exposition Fendre l'air, qui était au Quai Branly il y a un ou deux ans, je crois, les techniques de l'art du bambou. Et en fait, j'ai trouvé ça impressionnant de ce qu'on était capable de faire, en fait, avec le bambou et cet art. En fait, je suis toujours très intéressée par l'artisanat et ce qu'on est capable de faire avec ses mains. Et j'ai trouvé ça vraiment absolument fabuleux de se dire que c'était un art qui perdurait de décennie et de siècle en siècle, et qu'on pouvait toujours voir aujourd'hui. Et je trouvais ça absolument fabuleux. Et on voyait, en fait, tout ce qu'on était capable de faire, surtout la résistance, et être capable de...
Des paniers et des outils de transport au départ. Après, ils en ont fait des œuvres d'art, des pièces de rangement ou des plateaux.
Et tu sais, en t'écoutant, je trouve que ça s'inscrit également dans une démarche qui suggère la modestie. Comment, avec un simple bambou, on peut faire des choses...
Oui, c'est ça. C'est impressionnant.
Ouais, c'est super beau. Bon, malheureusement, elle est passée, comme ça fait un ou deux ans.
Ouais, c'est ça, oui, c'était il y a un ou deux ans, je crois.
Ouais, en tout cas, j'essaierai de retrouver les liens, puisque ça a l'air d'être super intéressant.
Ouais, bah, je pourrais te l'envoyer si tu veux.
Ça marche, merci. Et si on parle plus de créativité en général, comment tu nourris en fait ta créativité? Comment tu t'inspires?
Je m'inspire un peu de tout en fait, que ce soit la photographie, la peinture, les gens qui m'entourent, les gens que je croise dans la rue. Après, ça dépend aussi de mon état d'esprit au moment où je crée et du mood dans lequel je vais être. Donc, mais souvent, je vais être inspirée par de la musique, je pense. Fonction de, je vais me mettre un peu dans un mood de création et dans une idée de ce que je veux voir ressortir chez la femme qui portera mes vêtements en fait. Mais donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu crées en musique?
Ouais.
Quelle musique par exemple?
Vraiment, c'est ça dépend totalement de mon état d'esprit. Ça peut être de la musique classique à certains moments, comme ça peut être Britney Spears. Comme ça peut être Daniel Balavoine, enfin il n'y a pas de, j'ai pas vraiment de musique que j'écoute forcément et qui me met dans un mood de création en fait. Mais en fait c'est plus des l'état d'esprit dans lequel je serai me donnera en fait un peu le genre de musique que j'ai envie d'écouter.
C'est et un peu... J'ai une question qui me vient liée à la musique. Quelle serait la playlist de la femme The Etiquette?
J'ai pas vraiment de playlist en fait à donner pour la femme The Etiquette parce que la femme The Etiquette ça peut être une multitude de femmes en fait.
Elle est plurielle.
Elle est
plurielle. Et pour revenir sur tes inspirations, est-ce que peut-être tu t'inspires à travers la lecture?
Aussi, mais bon. En fait, je m'inspire à travers la lecture parce que ça me mettra dans un certain mood. Mais c'est pas la première chose que je fais.
Donc c'est plus la musique et
c'est plus la musique, la photographie, la peinture et vraiment je leur dis mais c'est vraiment des gens que je rencontre. Des gens que je rencontre et des personnes que j'ai aussi autour de moi.
Et tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux?
Je passe pas mal de temps, enfin sur les réseaux sociaux, je passe pas mal de temps sur Instagram. Je pense que c'est le seul vraiment.
Est-ce que vous avez quelques comptes à nous conseiller? Si vous avez tes comptes préférés.
Alors ça, oui, je prends mon téléphone. Arabella Greenhill.
Et elle, c'est une influenceuse, je connais pas du tout.
Non, elle est. C'est une consultante, en fait. Elle est directrice artistique de magazines, des choses comme ça, et c'est une consultante.
Ok.
Catherine Hamet, qui est pareil, elle a une marque, c'est une londonienne, qui est très à fond dans l'éco-responsabilité. Il y a Orsola De Castro aussi, si je dis pas de bêtises sur son nom, qui est la créatrice de Fashion Revolution.
Ah oui.
À Londres, Sarah Harris, qui est une directrice fashion du Vogue, qui fait des choses assez intéressantes.
Donc, tu t'inspires beaucoup de femmes qui accomplissent de grandes et de belles choses.
Ouais, exactement. Pas que, je m'inspire aussi. Mais c'est plus que de l'inspiration, c'est plus... comment dire ? C'est plus ils me permettent de m'intéresser, par exemple, à des sujets que j'avais pas forcément vus. Comme un Alistair Mackie, qui est créatif directeur du magazine Another. Enfin, Another Magazine.
Mais, et j'ai l'impression que tu préfères suivre les directeurs créatifs plutôt que le magazine où tu suis les deux.
Ouais. Non, généralement. En fait, je suis plus intéressée par ce que fait le directeur du magazine plutôt que le magazine, souvent.
Ouais, c'est intéressant.
Le magazine, évidemment, il peut m'arriver de l'acheter, mais en fait, ça m'intéresse plus de les. Enfin, je les suis. En l'occurrence, ce ne sont pas des comptes perso. Ils montrent leur famille ou des choses comme ça. C'est vraiment plus où ils montrent leur façon de penser et ce qui se retrouvera finalement dans l'édito de leur magazine.
Ouais, donc on voit un peu le behind the scenes dans une certaine forme, d'une certaine
manière. Ouais, exactement. Il y a Fashionist aussi, mais ça, c'est plus pour rester. Aware de ce qui se passe un petit peu à Londres.
Et t'es vraiment axée sur tout ce qui est aux UK plus qu'en France?
Non, je suis un peu sur les deux, mais c'est vrai que je suis plus les. Je vais plus suivre en fait des directeurs de magazines anglais que français.
Parce que
après, évidemment, je suis et j'aime énormément Karine Rothfeld, mais je sais pas. C'est vrai que, mais en fait, parce que je pense que j'ai aussi l'habitude de lire mes magazines en anglais, et du coup, je pense aussi que je les connais plus que les Français potentiellement.
Et peut-être aussi que si on recoupe avec ce qu'on se disait au tout début, en Angleterre, il y a une créativité qui est peut-être un peu plus grande qu'en France.
Ah oui, bah oui, ça.
Donc ça joue aussi peut-être.
Ça aussi, oui, complètement. Après aussi, j'avais une prof à la Sainte-Martine qui nous avait donné un peu les comptes sur lesquels elle travaillait, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de personnes. Notamment Streeters Agency et CLM Agency, qui sont des comptes que je trouve très intéressants, mais du coup, c'est que, encore une fois, que des comptes anglais.
Mmh. En tout cas, je ferai une petite liste pour toutes les personnes qui souhaiteraient retrouver tous les comptes que tu nous as passés.
Ouais, il y a aussi, si je peux me permettre, Almin Rec, qui a toujours de très belles œuvres dans ses galeries et qui permettent de rester aussi, de savoir un peu les derniers artistes qui sont sortis. J'aime beaucoup, en fait, sa sélection. Mais en effet, c'est encore une fois c'est généralement des femmes, en effet, que je suis, et tu vois, je m'en étais même pas rendu compte avant de voir ça.
Non, mais c'est peut-être aussi, comme auditeur, c'est un peu plus inspirant, mais je te demanderai, s'il te plaît, de me les envoyer, comme ça.
Ouais, je te ferai toute une liste. Désolée, mais c'est vrai que, en fait, je pense que, ou peut-être qu'au moment où on était à fond sur Instagram, c'est moi le moment où j'étais à Londres, et du coup, j'ai presque que des gens anglais, mais,
Mais ils sont inspirants, donc c'est
ils pas... Ils sont inspirants. Je dis pas que les Français ne sont pas inspirants, au contraire.
Non, tout le monde est inspirant, c'est juste qu'il y a différentes formes d'inspiration.
Exactement.
Pour rester... si on passe à l'avant-dernière question, de manière générale, quelles évolutions souhaiterais-tu voir dans l'industrie de la mode ?
Une mode plus consciente et respectueuse de l'humain et de l'environnement. Là, je pense qu'on commence à arriver à un stade où les gens... s'intéresse à l'environnement, déjà parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais ce serait, je pense, important de replacer un peu l'humain au centre de sa création.
Et ce qui est beau, c'est que c'est ce que vous essayez de faire, ce que vous faites avec The Etiquette.
Ouais, exactement. Bah, on est petite, on démarre, mais c'est ce qu'on essaye de faire complètement.
Et si on développe un peu plus ça, quelles seraient, en plus des actions que vous faites, quelles seraient des actions que nous pourrions faire pour contribuer à ces évolutions, que ce soit à titre individuel ou en tant que marque ?
Bah, je pense à titre individuel, c'est demander plus de transparence, en fait. Parce que pour se rendre compte un peu comment notre vêtement il est conçu, d'où il vient, par qui il a été fait et ce genre de choses... Déjà parce que ça nous permettra de nous rendre compte du prix d'un vêtement. Parce que je pense que aujourd'hui, avec la fast fashion, et je dis pas que c'est mal, parce que je pense que c'est important d'avoir aussi des choses abordables, et je pense que c'était bien au départ, mais la seule chose, c'est que du coup, les gens ont l'impression de pouvoir d'être riches et de pouvoir s'acheter des choses un peu toutes les deux secondes quand ils veulent, alors que il faudrait se rendre compte du prix d'un vêtement. Et de ce que ça coûte à la personne qui l'a fait pour je pense se rendre mieux compte de ce qu'est la fast fashion. Mm. En fait, je pense qu'il faudrait plus de transparence et se rendre compte en fait du travail de l'humain et revenir à la base de ce qu'est la mode au départ, c'est-à-dire l'artisanat et l'homme, quoi.
Donc peut-être à titre individuel, ne pas hésiter à questionner les marques sur la.
Oui, c'est ça.
L'origine de
l'argent. Mais après, je pense que c'est compliqué aussi, donc je sais pas en fait exactement ce qu'on pourrait demander. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques s'en rendent compte et essayent de faire des choses plus humaines en quelque sorte.
Elles font l'effort de s'améliorer.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'elles essayent. De toute façon, il y aura toujours des gens qui seront là pour les critiquer, pour leur dire qu'elles font pas assez et que ce qu'elles font, c'est pas bon. Ça, c'est certain. Après, je pense que c'est un premier step. Il en faudra beaucoup plus, mais c'est vrai qu'ils font tout en même temps, et je pense que ce serait faudrait ouais que les marques mettent plus l'humain au centre de la création plutôt que les profits en fait.
Et une des solutions, moi je pense que c'est encore une fois exactement ce que vous faites, c'est créer de nouveaux business models. Parce que vous, par exemple, pour Zetical, comme vous partez vraiment du principe sur une démarche vraiment éco-responsable et même sur de l'upcycling, c'est vraiment inclus dans les valeurs intrinsèques de votre entreprise. Donc, vous pouvez pas ne pas, envisager ne pas suivre ces démarches-là, en fait.
Ah oui, ça complètement. Bah c'est. En effet, je pense que même oui aussi des nouveaux business models ce serait aussi une bonne idée mais il y en a aussi comme des Marine Serre aujourd'hui qui font totalement de l'upcycling avec d'anciennes pièces et qui recréent des tissus, des patchworks, des choses comme ça.
Et dernier conseil que j'ai envie de dire à titre individuel, bah, c'est aussi investir plus notre argent dans des pièces de créateurs indépendants et soutenir les artisans et les nouveaux modèles qui arrivent.
Ah, exactement.
Et sur ces paroles...
Ça, c'est pas moi qui dirais le contraire.
Donc, on vous invite aussi à suivre The Etiquette et à voir ce qu'ils font. Et en parlant de ça, si on veut te contacter, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Instagram où on a notre email qui est sur The Etiquette, qui est contact@theetiquette.com et c'est notre adresse mail à Elena et à moi, donc on reçoit aussi tout dessus, mais on peut nous contacter aussi sur Instagram si on le souhaite.
Ok, je mettrai tous les liens dans la description. Et encore une fois, Alexia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
C'était un plaisir et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.